Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Eh bien, chers amis auditeurs de Radio Immo, bonjour à tous et en ce début 2019, je vous souhaite à tous une très très bonne et belle année placée sous le signe de l'habitat responsable. Bienvenue pour cette cinquième émission du confort dans l'habitat avec Promotelec. Aujourd'hui, nous allons parler de la production d'électricité photovoltaïque et de l'autoconsommation, un sujet fort passionnant et qui est en pleine évolution. Pour aujourd'hui, donc, nous avons Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec, notre invité permanent. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Et nous sommes l'un et l'autre très fiers et heureux d'accueillir Franck Raffali, président du GMPV, le groupement des métiers du photovoltaïque de la Fédération française du bâtiment. Bonjour Franck.
Bonjour.
Et Jean Damian, qui est son prédécesseur, l'ancien président du GMPV et directeur de Sopra Solar. C'est bien cela ?
Tout à fait.
Bonjour Jean, merci.
Le confort dans l'habitat, parole à Dominique Desmoulins, directeur général de Promotelec.
Alors aujourd'hui, on a choisi de prendre un peu des risques et de vous présenter un sujet qui est un peu complexe, puisque le photovoltaïque, c'est pas quelque chose de simple. L'autoconsommation non plus, et quand on y met du stockage, y a beaucoup de gens qui ont du mal à suivre. Donc ce qu'on espère faire aujourd'hui, et l'objectif de cette émission, c'est de vous simplifier la compréhension de tout ça, de manière à ce que chacun puisse avoir une opinion la plus fiable possible sur ce sujet.
Le confort dans l'habitat, l'invité.
Alors en préambule, Franck, j'aurais aimé que vous puissiez nous préciser un petit peu qui regroupe, qui est présent au sein du GMPV.
Alors le GMPV, c'est le groupement des métiers du photovoltaïque de la Fédération française du bâtiment. En fait, ce sont 5 unions de métiers au départ, puis 7 aujourd'hui, qui se sont regroupées pour parler du métier du photovoltaïque qui est, comme vous l'avez dit, assez complexe finalement.
Et donc on en parlera peut-être tout à l'heure sur effectivement la qualité des professionnels et des produits qui vont être mis en œuvre. Première question que j'aimerais sur le plan technique vous poser. Aujourd'hui, l'état du photovoltaïque en France, on va distinguer deux choses, ce qui est installé sur les bâtiments, ce que sont les champs ou les fermes photovoltaïques, mais l'état de la production photovoltaïque en France, ce qu'elle est, et puis quelle est la part de l'autoconsommation dans ce paysage ?
En gros, il faut considérer que notre métier, c'est à peu près 1 gigawatt crête, en gros, hein, d'installation par an. C'est-à-dire que vous avez la moitié de cette installation, c'est-à-dire 500 mégawatts crête par an, qui sont installés sur du sol, des centrales au sol, et puis la moitié aussi qui est installée plus près des bâtiments, c'est-à-dire des ombrières, de parkings, des toitures industrielles ou chez des particuliers.
Alors pour donner un ratio qui soit compréhensible par nos auditeurs, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais 3 kilowatts crête environ, c'est 20 mètres carrés de panneaux, c'est de cet ordre-là ?
C'est à peu près ça, un petit peu moins aujourd'hui.
Un petit peu moins aujourd'hui par rapport à la technologie des panneaux. Pendant longtemps, et on le voyait dans des médias grand public classiques sur les marronniers du sujet, le photovoltaïque s'était abordé comme un placement financier, non ?
Tout à fait, mais le sujet du photovoltaïque a évolué, et a évolué beaucoup ces dernières années, parce que nous avons eu une politique européenne protectionniste un petit peu par rapport aux produits chinois, et ça s'est arrêté, c'est ce qu'on appelait le MIP, le Minimum Importation Price, qui interdisait en fait à des produits qui venaient de Chine par exemple, d'être vendus à un tarif très peu faible, très peu cher, c'est-à-dire qu'il y avait, si c'était vendu trop peu cher, en fait une taxe complémentaire qui venait mettre à égalité des panneaux qui étaient fabriqués en Europe et des panneaux qui étaient importés de ces pays-là. Ce système a pris fin d'année dernière, qui a baissé encore le prix des panneaux, ce qui fait que les installations, au global, ont encore chuté, le prix d'installation. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où il n'est plus nécessaire d'avoir des subventions pour pouvoir installer des panneaux. On a ce qu'on appelle le switch point qui est passé, c'est-à-dire que installer des panneaux solaires, ça coûte pas plus cher que acheter de l'énergie au réseau.
D'accord, donc parce qu'effectivement, on avait auparavant des prix par rapport au matériel chinois qui était un petit peu verrouillé sur la partie installation. Et puis on avait également un prix de rachat du kilowattheure par EDF qui était majoré. Et ça c'est en train de devenir une équivalence par rapport au prix d'achat de l'électricité que l'on peut faire.
Oui, parce qu'on avait besoin d'une subvention. Les panneaux étant très chers il y a 10-12 ans, hein, c'était très très cher. On était obligé d'avoir une subvention pour que l'opération soit rentable financièrement. Aujourd'hui, le prix d'une installation est couvert par le remboursement qu'on en a si on n'achète pas d'électricité au réseau.
Messieurs, une question se pose. Lorsque l'on est au nord de la Loire ou au sud de la Loire, dans l'est de la France ou dans le sud-ouest, la valeur de la production, elle est inéquitable ou pas ?
Alors oui, elle est inéquitable, elle dépend du facteur soleil. Effectivement, il y a plus de soleil à Marseille qu'à Lille. On enfonce une porte ouverte. Et également, en fonction de l'inclinaison du panneau et de son orientation. Néanmoins, il demeure intéressant de faire du solaire partout en France.
D'accord. Je pense qu'il serait important de pouvoir classifier la typologie des bâtiments en trois par rapport à ce que peut représenter de l'autoconsommation, c'est-à-dire consommer sa propre électricité, entre de la maison individuelle, du bâtiment collectif et puis du bâtiment d'entreprise et pour des investisseurs.
Oui, tout à fait. On a des bâtiments habitation, on va dire que c'est du 0,9 kW. Donc on appelle 9 kW crête, c'est-à-dire le nombre de panneaux qui sont installés. Cumulé, ça fait 9 kW crête, c'est-à-dire qu'ils sont capables de produire 9 kW en puissance, on va dire à midi en été.
D'accord.
Ensuite, on a des panneaux qui sont des installations qui vont de 9 kW à 100 kW à peu près. Et ça, ça constitue à peu près une grosse partie des installations dites industrielles. Et puis ensuite, il y a les panneaux, les centrales à plus de 100 kg qui constituent ce qu'on appelle tous les appels d'offres de la CRE, Commission de Régulation des Énergies.
D'accord. Donc, sur l'individuel, maison individuelle, il est relativement simple, sur un plan technique et juridique, j'imagine, de faire de l'autoconsommation. Sur la partie d'un immeuble collectif d'habitation, quel est l'état de la situation aujourd'hui ?
Alors, jusqu'à présent, on va dire qu'il y avait, qu'on installait du photovoltaïque, on ne se posait pas la question, on injectait. Hein, puisqu'on, je l'ai dit il y a quelques minutes, en fait, le prix était, c'était plus intéressant financièrement de vendre toute son énergie. On appelait ça une installation en injection totale. Depuis peu, l'injection totale n'est plus obligatoire, enfin, pour ce qui concerne le tarif. Et puis, on peut faire donc de l'autoconsommation dite individuelle. Donc là, c'est ce qui se fait de plus en plus, connecté au réseau. Et on va tout consommer ou consommer une partie de cette énergie si elle est en phase avec ce dont on a besoin. Et puis, on a aussi l'autoconsommation collective qui commence à arriver, mais ce ne sont que des expérimentations parce qu'aujourd'hui, le législateur, en fait, n'a pas encore ouvert les vannes. On est obligé d'être soit derrière un transformateur HTA, vers de la basse tension, et une dernière législation a fait qu'on doit être dans un rayon de 1 km autour de l'installation. Alors, il y a eu une tentative d'amendement au Sénat au mois de novembre de l'année dernière qui s'est soldée par un échec. Il va falloir repasser devant le législateur pour pouvoir ouvrir cela de façon plus intéressante.
Dominique Dumoulin, une réaction sur ce sujet ?
Oui, vous avez parlé d'expérimentation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on a un projet, si on est promoteur, voire si on a un bailleur social, on peut lancer des choses, même si les règles ne sont pas complètement définies.
Alors là, dans l'état actuel, je pense qu'il faudrait se renseigner auprès du législateur. Mais je sais que théoriquement, c'est possible. C'est-à-dire qu'il faut être une seule personne morale, il faut se regrouper sous une personne morale. Et on peut lancer, effectivement, avec l'aide de d'Enedis, par exemple, le sujet.
Alors justement, ça m'amène une question. Jean, je crois que vous êtes spécialisé sur les volets de la réglementation par rapport au photovoltaïque, notamment sur le volet de la réglementation dite thermique ou demain environnementale. On a actuellement, sous l'égide de la RT 2012, le bâtiment basse consommation qui est généralisé. On va vers le bâtiment énergie positive. Comment ça va s'ajuster, la prise en compte du photovoltaïque ?
Alors, la prise en compte du photovoltaïque, ou plutôt le photovoltaïque sera là au service d'un objectif qui est d'améliorer la performance énergétique du bâtiment. Donc la RT 2012 a très bien traité les logiques, comme vous le disiez, pour arriver à un bilan basse consommation, bâtiment basse consommation. Donc on a très bien traité l'enveloppe et une espèce de consensus pour dire qu'on peut difficilement faire mieux. Voilà. Maintenant, on a réduit la consommation de kilowattheures par mètre carré par an du fait de la qualité de l'enveloppe. Comment faire pour continuer à la réduire ? Donc là, sans un apport d'énergie renouvelable in situ, on ne sait pas faire. Et cet apport d'énergie renouvelable, le photovoltaïque, ben, année après année, surtout sur la base de ce que vient de dire Franck Raffali sur, ben, quelque part, une forme de baisse continue des prix qui rend aujourd'hui attractif le photovoltaïque sans subvention, on voit que dans le cas d'une construction neuve, lorsque le photovoltaïque est pris dès la conception de l'ouvrage, ben, le photovoltaïque participe à passer de bâtiment basse consommation à bâtiment énergie positive avec... quelque part un retour sur investissement qui est, je dirais, acceptable. Acceptable par le marché parce que vous avez d'autres sources de production d'énergie renouvelable qui sont moins facilement accessibles. On pense à la géothermie, vous avez des sites qui le sont, d'autres qui ne le sont pas. On pense à l'éolien, c'est un peu compliqué de mettre des éoliennes au milieu du parking ou sur une toiture.
C'est plus délicat.
Voilà, finalement, le photovoltaïque, il y a une forme d'universalité qui rend l'utilisation de cette technique sur le bâtiment, sur le papier, assez simple.
Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
On sait également que la future réglementation, elle va être à la fois énergétique, mais elle va aussi être environnementale. On est dans le cadre de l'expérimentation E plus C moins aujourd'hui, définition de la réglementation environnementale 2020 en cours d'année. L'impact carbone, dans le poids carbone de la modélisation de l'analyse de cycle de vie du bâtiment, qu'est-ce que ça donne sur les panneaux ? Dans le langage commun, on dit le panneau, il est extrêmement polluant. On a aussi l'onduleur, donc tout cela, comment ça va s'articuler ? C'est-à-dire que ce qu'on va gagner d'un côté, est-ce qu'on ne va pas le perdre de l'autre côté sur le plan environnemental ?
Alors c'est une très bonne question. Aujourd'hui, notre travail au niveau du GMPV, c'est notamment d'alerter un certain nombre d'industriels qui fabriquent des panneaux solaires pour leur dire, bah, c'est bien, vous savez produire du kilowattheure, ce kilowattheure va nous permettre d'améliorer donc un des deux nouveaux critères que veut introduire la réglementation environnementale 2020. 2018, qui aura peut-être 2020, qui est le critère énergie. Encore faut-il qu'on arrive à justifier que ça ne dégrade pas le deuxième critère, qui est le critère carbone. Donc les industriels fabricants de panneaux solaires sont en train de travailler sur le sujet, et à partir du moment où chaque industriel sort les valeurs propre à son matériel au niveau carbone, on se rend compte que cela ne dégrade absolument pas le bilan carbone global de l'ouvrage.
Si on parle donc de ces données, il y a aussi une donnée qui est importante, c'est la donnée économique. Lorsque l'on parle aujourd'hui donc d'autoconsommation par rapport à l'investissement, c'est un temps de retour sur investissement de quel ordre ? Et à partir de combien de temps, potentiellement, fait-on une véritable économie sur un aspect financier ? Franck, vous avez des ordres de grandeur ?
Oui, en fait, on peut dire qu'à peu près aujourd'hui, on est sur 12 ans s'il n'y a pas de subvention.
D'accord. Question totalement ouverte. Durée de vie des matériels, performance qui décroît potentiellement, on est...
Alors pas vraiment, en fait, on avait tendance à penser dans les business models, business plans du début du photovoltaïque, par exemple un onduleur ça durait 7 ans, il fallait les changer tous les 7 ans. Bon, par exemple, je suis également patron d'une entreprise de pose de centrales photovoltaïques, et il se trouve qu'il y a 10 ans, nous avons posé une centrale photovoltaïque en Île-de-France avec 126 onduleurs sur la toiture, c'était des petits onduleurs à l'époque, par exemple. On n'en a jamais changé et ça fait 10 ans. Et on ne pense pas que tous les onduleurs vont mourir d'ici 8 ans. Donc globalement, on pense que la vraie durée de vie d'un onduleur, c'est plutôt de l'ordre de 15 à 20 ans.
Voilà. D'accord.
Pareil pour les panneaux. Il y avait une règle qui disait que les panneaux ils baissaient de puissance, de production, de 1%, enfin 0,7% par an pendant les 20 premières années, puis après c'était mort. C'était calé sur la durée de vie du contrat d'achat d'EDF. En réalité, vous avez des panneaux qui produisent bien, parfaitement, tout le temps la même chose depuis le début, et puis des panneaux qui sont plutôt des ratés industriels qui se délaminent, qui s'abîment plus vite et qui produisent moins que ce qui était prévu.
Donc du bon matériel installé dans de bonnes conditions, un retour sur investissement de l'ordre de 12 ans hors contexte subventionné, on est bien d'accord, donc c'est véritablement ce que l'on paye et ce que l'on perçoit. On parle de bon matériel, de bonne installation, on a des points de vigilance à avoir sur ces sujets-là ?
Tout à fait. Il faut avoir à la fois ce qu'on appelle une technique courante, c'est-à-dire des systèmes de pose qui sont des systèmes d'intégration qui sont évalués de façon collégiale, c'est-à-dire des systèmes qui ont un avis technique, un pass innovation. Ensuite, des entreprises qui doivent être qualifiées. Qualifiées, ça veut dire qualifiées par des organismes très sérieux, qui sont Califélec, Calibat ou Calitenr, qui sont trois organismes très sérieux, et puis ensuite du matériel de qualité et une bonne entreprise.
Ça va de soi pour éviter donc les surprises en termes et de performance et de durabilité de l'installation.
Oui, parce qu'il y a eu chez les particuliers pas mal de problèmes à une certaine période avec des entreprises qui n'étaient pas forcément très bien formées à la pose de panneaux, avec des systèmes qui n'étaient qui étaient au départ. Hein. Tout ça, c'est un petit peu de l'ancien temps. Maintenant, on a des entreprises qualifiées. On a quand même eu une activité qui était difficile. Donc, on a pas mal d'entreprises qui n'existent plus aujourd'hui et ceux qui restent aujourd'hui sont des gens sérieux.
Et sur la fiabilité de la donnée économique, c'est-à-dire si on calcule ces temps de retour sur investissement, ainsi de suite, les entreprises sont calées sur ce sujet aujourd'hui ? Sont fiables ?
C'est assez simple. On a des produits qui sont des produits qui nous permettent de calculer, par exemple, le taux d'autoconsommation. On a, par exemple, un produit qui est développé par l'INES, qui a développé à l'aide également du GMPV, hein, un produit qui est très bien fait et qui propose de calculer l'autoconsommation d'une installation et c'est accessible pour n'importe qui.
D'accord. Alors, sur ce volet de l'autoconsommation, on peut aussi considérer qu'à certaines époques de l'année et certaines périodes de la journée, on ne va pas consommer la totalité de ce que l'on produit. Le stockage que l'on pourrait faire à ces moments-là des journées ou des périodes, c'est quelque chose qui a une réalité et technique et économique aujourd'hui ?
Alors ça commence, on a des produits qui commencent à sortir, qui sont des batteries qui permettent de stocker une partie de cette énergie. On a aussi l'optimisation, il ne faut pas l'oublier, l'optimisation, le pilotage de la consommation avec les objets connectés, les produits connectés qui vont être de plus en plus prépondérants dans le monde, dans notre monde, ça va aller très très vite. Donc en fait, si on associe le stockage puis la modulation de consommation, on arrivera à faire des taux d'autoconsommation beaucoup plus développés.
Il y a des choses sur le sujet, Dominique, je sais que vous rentrez du CES à Las Vegas. Il y a des choses sur ce côté optimisation qui peut apparaître dans l'usage des appareils, dans le logement ?
Non, ce qui peut apparaître, c'est la reconnaissance vocale. C'est-à-dire que demain, on rentre chez soi, on dit demain mes enfants, c'est samedi, mes enfants reviennent, ils viennent passer le week-end à la maison. Et on parle à sa boîte box, à sa boîte, et on lui dit mais est-ce que j'ai intérêt à consommer ou pas ?
D'accord.
Et la boîte vous répond en disant, ben finalement, vous avez intérêt à consommer parce que c'est moins cher, ou vous n'avez pas intérêt à consommer parce que c'est plus cher. Mais voilà, voilà ce qu'on peut ramener. Et on n'est pas encore complètement là en France.
Donc tout cela se met en ligne. Vous le savez, on peut nous poser des questions sur le compte Facebook de Promotelec en amont des émissions. Et j'avais une question qui émanait d'un bailleur social qui s'inscrivait dans une démarche, on va dire, vertueuse, qui souhaite mettre véritablement en œuvre l'autoconsommation à destination de l'occupant du logement et qui souhaitait mettre en place un système individuel par logement sous forme d'ombrière ou de garde-corps de balcon avec onduleur par logement. Votre avis, messieurs, sur ce sujet, sur un plan, on va dire, juridique, sur un plan technique, sur un plan économique, qu'est-ce que vous pensez de ce type de solution ?
Alors, sur le plan juridique, en fait, il n'y a pas trop de problèmes parce que... Alors, le législateur avait fait un certain nombre de garde-fous pour considérer que s'il y a une subvention, alors on ne peut pas faire une installation à moins de 500 mètres parce qu'il y avait des petits malins qui découpaient des installations pour avoir un tarif d'achat plus intéressant. Ça s'est prolongé sur... y compris s'il y avait une installation avec injection, puis dans les 500 mètres, une installation en autoconsommation totale, même sans subvention. Cela dit, si là, on est dans de l'autoconsommation pure et dure, sans subvention, il n'y a aucun problème.
C'est l'autoconsommation, pardon, à l'échelle du logement. C'est-à-dire que j'ai une ombrière sur ma terrasse, enfin du moins, le bailleur met en place une ombrière sur la terrasse du logement X, un onduleur dans le logement X, c'est l'autoconsommation à destination de l'occupant. Donc là, il n'y a pas de problème technique ou juridique sur le sujet.
Non, il n'y a pas de problème. Même techniquement, en fait, on peut imaginer des micro-onduleurs pour deux ou trois panneaux. Et chaque logement a deux ou trois panneaux. Et
c'est ça,
tout ce qu'il peut.
C'est l'idée. Économiquement, ça a une réalité, à votre avis ?
Aujourd'hui, des installations avec des micro-onduleurs, ça coûte un tout petit peu plus cher qu'une installation standard. Sauf qu'on a aussi un avantage, c'est que du coup, chaque panneau produit un petit peu plus puisqu'il est régulé de façon unitaire. Mm-hmm. Et du coup, on s'y retrouve.
Bon, ben voilà une excellente nouvelle par rapport à la question qu'il pouvait se poser sur le sujet.
Le confort dans l'habitat avec Promotelec.
Eh bien, messieurs, merci de votre participation. Il arrive l'heure de la conclusion. Dominique Desmoulins, la parole est à vous.
L'autoconsommation, visiblement, c'est un sujet qui intéresse tout le monde et donc on y va. Maintenant, il faut quand même qu'on ait quelques garanties. Alors les trois garanties, je dirais, ou les trois sujets sur lesquels il faut encore travailler, c'est qu'on ait premièrement une garantie sur la sécurité électrique de l'installation, parce qu'il y a des panneaux, il y a de l'électricité, il y a du stockage, il y a des batteries. Donc, premièrement, une garantie sur la sécurité électrique. Deuxièmement, qu'on ait un coût raisonnable, parce que sinon, personne ne s'engagera dans la démarche. Alors, on a parlé de 12 ans, est-ce que c'est un coût raisonnable ou pas? Ça, c'est complètement relatif. Et puis, troisièmement, qu'on ait une technique éprouvée. Une technique éprouvée, c'est un produit qui est validé, et puis une pause par des gens qui sont qualifiés. Voilà les trois conditions sur lesquelles on doit se reposer pour proposer cet avenir, tout simplement.
Merci, merci à vous trois messieurs, et puis donc rendez-vous le mois prochain pour Le Confort dans l'Habitat avec Promotelec.
Le Confort dans l'Habitat, retrouvez cette émission en podcast sur l'appli Radio Immo et sur le site promotelec.com.